Nous découvrons aujourd'hui les apôtres dans une situation assez similaire à celle qu'a connue Jésus. C'est comme si les choses se reproduisaient d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre de leurs actes et de leurs paroles, suivant par là le chemin qu'a suivi Jésus. Et c'est tout à fait cohérent. C'est ce que Jésus a dit. C'est lui qui est le chemin et c'est sur son chemin que l'on marche. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et le Sanhédrin pose une question sur laquelle on pourrait passer rapidement, d'autant que Pierre et les apôtres semble ne pas y répondre. Et c'est toujours intéressant quand il y a un décalage entre la question et la réponse. C'est intéressant de voir s'il n'y a pas quelque chose à comprendre. La probabilité pour que ce soit une erreur est inexistante puisque le texte est inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, bon, une erreur de copiste est toujours possible, mais venons-en au fait. La question qui est posée, c'est « Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Alors, si vous avez été un peu attentif à la lecture de la Passion selon saint Matthieu, au chapitre 27e, si vous le lisez, vous découvrirez qu'il est question aussi de sang, c'est-à-dire que ceux qui réclament la mort de Jésus devant Pilate sont poussés à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une phrase qui a l'air peut-être un peu anodine, mais la sortie d'Égypte, ce qui est demandé à Moïse, c'est qu'on égorge un agneau et que sur le linteau de la porte de chaque maison des Israélites, on fasse un signe, qu'on marque le linteau de ce sang, pour que l'esprit de mort qui va se promener en Égypte ne rentre pas et ne tue pas dans la maison des Israélites. Vous pouvez retrouver ça dans le livre de l'Exode. Et du coup, cette histoire de sang prend un certain relief, d'autant que si vous allez regarder en Lévitique 17, 11, me semble-t-il, vous verrez que on trouve cette allusion au sang qui donne la vie. Donc en fait, on pourrait presque dire que Pierre et les apôtres auraient dû répondre à cette question « Oui, 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 on veut faire retomber le sang de cet homme sur vous, pour vous sauver. » Au fond, ils auraient presque pu répondre ça. Et n'est-ce pas ce qu'ils répondent ? Un peu moins crûment, peut-être, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, au fond, les apôtres sont un peu plus subtils que ce que je viens de dire, parce que de même que Jésus a pu le faire durant son procès, les apôtres invitent l'auditoire à la réflexion. C'est une des caractéristiques du ministère de Jésus et de celui des apôtres que l'on trouve dans les Actes, et qui est un signe, c'est que le christianisme ne s'impose pas, ne doit pas s'imposer. Ça n'est pas, alors ça a pu arriver, mais ce que je veux dire, c'est que dans les temps qui ont suivi, mais c'est quelque chose qui doit engager la personne et provoquer chez elle une adhésion ou un rejet. a priori une adhésion, puisque c'est ce qu'on souhaite. On veut que la personne soit sauvée. Et du coup, c'est un peu comme si les apôtres leur avaient dit, écoutez, jugez par vous-même. Jugez par vous-même. Alors, c'est bouleversant, parce que durant le procès de Jésus, ce grand conseil a refusé de juger par soi-même, puisqu'il a confié la tâche à Pilate. Vous voyez, c'est impressionnant, en fait, ce grand conseil a confié à une autorité à manipuler une autorité pour qu'elle fasse quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, qu'il n'en soit finalement pas tout à fait responsable, même s'ils disent que son sang retombe sur nous. Donc en fait, en s'opposant à Jésus, ils réalisent par leur bouche, par leur parole, ce que Jésus est venu faire, à savoir nous sauver de nos péchés. Maintenant, il reste toujours cette adhésion, comme je viens de le dire. Et c'est ce que finalement les apôtres disent. Hein. Il l'a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur. Voilà. Donc on retrouve exactement la même doctrine que celle que finalement Jésus disait, ce qui n'est pas une surprise. Et puis justement, il y a cette question donc, de témoignage. Est-ce que vous recevez ce témoignage ? Alors c'est l'Évangile. Vous voyez, c'est l'Évangile qui vient expliciter ou confirmer par antériorité, si je puis dire, la prise de parole des apôtres, qui est que, ben oui, il y a une adhésion et qu'elle ne va pas de soi parce que celui qui parle du ciel n'est pas entendu. Par contre, et c'est là où je veux en venir sur l'Évangile, nous découvrons quelque chose de tout à fait singulier et qui est intéressant du point de vue de la Lectio Divina. C'est que Jésus, dans Jean 3, dit « Celui qui reçoit son témoignage certifie quelque chose. » Donc il y a d'abord l'idée de recevoir le témoignage, donc d'adhérer, de donner son accord. Et la question qui se pose ensuite, c'est de savoir ce qu'il certifie. Alors, quand vous prenez vos Bibles, vous voyez, vous lisez, certifie par là que Dieu est vrai. C'est évidemment une acception tout à fait possible. Mais on pourrait comprendre autre chose. En effet, avec le verbe être, qui est probablement omis en syriaque, en araméen, puisque c'est des verbes nominales, il n'y a pas besoin de verbe. Et avec le verbe être, le sujet et l'épithète peuvent être inversés. Autrement dit, peut-être que ce que veut dire ce texte, c'est celui qui reçoit le témoignage de Jésus certifie par là qu'il est vrai Dieu. On a tout à fait le droit, d'un point de vue syntaxique, de dire cela. Et ça fait un écho très fort à ce que les apôtres viennent de dire tout de suite, puisque en disant que Dieu l'a élevé auprès de lui, il fait donc son égal de lui. Donc il est Dieu. Vous voyez, il y a ce passage entre ces deux lectures. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire ? Est-ce que ça va nous dire que, ah bon, mais alors la traduction, elle n'est pas bonne ? Existe-t-il une bonne traduction ? Aujourd'hui, on est en train de retrouver... Bon, déjà, vous savez peut-être que la version de l'Évangile qu'on nous donne est une sorte de puzzle composé de diverses versions grecques qui ont été, non pas mises bout à bout, mais qui se complètent les unes les autres. On n'a pas une version de l'évangile écrite. Hein. Et avec les recherches, notamment à Qumran, on découvre des documents qui sont parfois antérieurs aux versions grecques. Je pense notamment à la Vétus Syrah, qui est du IIe siècle, donc qui est un texte qui est antérieur à la version grecque que nous avons. Et ceci montre que on ne peut pas faire l'économie d'une interprétation. Ça n'est pas possible. Et alors, quelle est la bonne version ? Ben, elles sont toutes bonnes, elles apportent toutes quelque chose, elles nous disent toutes quelque chose de Dieu, de même que quand vous lisez un texte, vous y apportez vous-même une interprétation par le fait que vous la lisez. Donc, en fait, c'est un enrichissement, si vous voulez. Le fondamentalisme est condamné par l'Église. Voilà. Il y a un sens, il y a plusieurs sens, il y a même beaucoup de sens, puisqu'à chaque fois, encore une fois, qu'on le lit, on en ajoute un sens. Donc, on y ajoute un sens. Donc voilà, je trouve que ça, c'est très important d'avoir, c'est l'occasion de dire ça, et surtout donc de nous dire que dès le début, en fait, en Saint Jean, eh bien Jésus témoigne qu'il est Dieu. Mais nous ne le lisons peut-être pas de cette manière-là, parce que les traductions, habituellement, ne nous le donnent pas. Bon, moi, je reste toujours un peu surpris qu'il n'y ait pas ces allusions. Parce que c'est tout de même extrêmement important. Vous voyez, en grec, hein, « oti o theos aletes estin ». Que Dieu vrai, il est. On peut parfaitement dire ça. Et du coup, que Jésus est vrai Dieu. Ce que vous voulez que je vous dise, on peut s'excuser puisque c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est important de bien scruter les Écritures en regardant exactement ce qu'elles veulent dire. Et c'était l'occasion de le relever. Donc voilà, donc en tout cas, pour nos vies actuelles, pour nos vies d'aujourd'hui, parce que c'est aussi ça qui est important, vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'étudier l'écriture, de se faire des illusions sur notre érudition, mais plutôt de voir, bon ok, et j'en fais quoi de ça ? Jésus est vrai Dieu, j'en fais quoi ? Je fais quoi de ça ? Je fais quoi de cette opposition que Pierre et les apôtres subissent ? Comment elle s'intègre dans ma vie ? Vous voyez, comment nous pouvons vraiment vivre de cette parole aujourd'hui ? Comment elle s'accomplit dans notre vie maintenant, aujourd'hui ? C'est une vraie question.